Le débat du jour. Clément Fraioli.
Bonsoir à toutes et à tous. Versera-t-on un jour de l'argent à tous les citoyens sans condition, un revenu universel ou revenu de base, comme on l'appelle ? L'idée n'est pas nouvelle, elle date de plusieurs siècles, mais elle s'invite de plus en plus dans les débats politiques en France et dans le monde. 13 départements français souhaitent mener des expériences l'année prochaine en ce sens et des expérimentations ont déjà été faites à l'étranger. Pour certains, cela permettrait de lutter contre les inégalités sociales ou encore de ne plus être dépendant du travail. D'autres, au contraire, craignent que cela soit une incitation à ne plus travailler ou que les employeurs en profitent pour baisser les salaires. Alors, le revenu universel peut-il être une vraie solution ou est-ce une fausse bonne idée ? C'est le débat du jour. Et pour en parler avec moi ce soir, Benoît Carrère, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du mouvement français pour un revenu de base et vous avez collaboré avec le sénateur français Daniel Percheron, rapporteur de la mission d'information menée au Sénat en 2016 sur le revenu de base. Nous sommes également en ligne avec Paul Jorion, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes anthropologue et sociologue, professeur associé à l'Université catholique de Lille dans le nord de la France. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer donc, j'aimerais faire un petit peu de définition et je me tourne pour cela vers vous, Benoît Carrère. De quoi parle-t-on exactement quand on dit revenu universel, revenu de base ? Est-ce que c'est sensiblement la même chose ou c'est deux réalités différentes ?
Alors c'est la même chose. Exactement la même chose. Il y a une définition qui a été donnée, qui est reprise aussi par le mouvement UBI, qui est un mouvement international qui rassemble l'ensemble des associations qui travaillent sur la question du revenu de base et qui a été reprise par pas mal de penseurs là-dessus. Donc le revenu de base doit être d'abord universel, donc donné, versé à tout le monde. Il doit être versé de manière individuelle, c'est-à-dire qu'on met un terme à tout ce qui est conjugalité de l'impôt ou familialisation de l'impôt. Donc vraiment c'est versé à tout le monde, c'est-à-dire que pour le coup chaque individu le perçoit.
Et quand on dit tout le monde, c'est peu importe l'âge.
Peu importe l'âge, peu importe, ça peut être dès la naissance avec des montants peut-être variables jusqu'à l'âge de 18 ans, mais tout est possible. Mais en tout cas, c'est donné dès la naissance. C'est cumulable à un travail, ça qui est très important, ça aussi. Et c'est évidemment inconditionnel, c'est-à-dire sans condition de ressources, sans condition, aucune condition pour le toucher.
Voilà. Paul Jorion, vous, quel est votre positionnement sur le principe que vient d'expliquer Benoît Carrère ?
Mais le principe est excellent et moi j'y étais acquis dès le départ. Et c'est simplement, je dirais, mon expérience d'avoir travaillé 18 ans dans la banque qui m'a fait me rendre compte que c'était naïf d'un point de vue technique et que ça n'allait pas fonctionner, ça ne s'attaque pas du tout à la concentration de la richesse puisque par définition on distribue les mêmes sommes à tout le monde. Ça s'ouvre aux reproches possibles d'un détournement à la fois par l'utilisateur et aussi par la possibilité par le système ambiant d'essayer de détourner ces sommes. À mon sens, ce qu'il faudrait faire, c'est démonétiser, extraire d'une logique marchande ce qu'on essaye de faire par le revenu universel. Et pour ça, la meilleure solution, c'est d'éviter précisément de distribuer des chèques aux personnes qui pourraient être subtilisées d'une manière ou d'une autre.
Oui, on aura l'occasion de revenir donc sur les autres propositions que vous avez, Paul Jorion. Pour rester un petit peu sur le revenu universel que vous défendez, Benoît Carrère, vous, concrètement, qu'est-ce que vous prônez comme revenu de base ? Quelle somme versée à qui ? Pourquoi faire ?
Alors, le mouvement français défend toutes les formes de revenu de base, c'est-à-dire grosso modo, à partir du moment où on s'en tient à l'objectif qui est effectivement inconditionnel, individuel, cumulable. Donc ça peut partir d'une somme à l'équivalent du RSA à des sommes beaucoup plus importantes comme autour de 1000 euros ou plus de 1000 euros. Donc là aussi, le mouvement français, il a été monté en 2013, ça fait très longtemps qu'il existe, qu'il défend cette idée-là. Et en fait, on est plus largement dans l'idée qu'on fait un pari sur l'homme, en fait. On fait le pari qu'en donnant cette somme-là aux gens, il va y avoir un changement de comportement. Et en fait, que le RDB, le revenu de base, pardon, n'est pas l'outil, c'est juste un simple outil, c'est pas quelque chose qui va révolutionner la société au sens où c'est un grand changement, mais en tout cas c'est le petit changement, le petit déclencheur qui fera en sorte que cette société pourra changer dans ses rapports humains. C'est ça l'essentiel que notre objectif.
Pourquoi faut-il que la société change selon vous ? Quels aspects doivent changer aujourd'hui et qu'est-ce qui amène selon vous à la nécessité de recourir à un revenu
de base ? Pour juste répondre à Paul Jorion, c'est vrai que mais le revenu de base ne fait pas tout. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on met en place un revenu de base, effectivement il y a des tentatives incitation à ce que effectivement on donne un revenu de base, un blanc-seing, et puis c'est fini. Le revenu de base ne fait pas tout. Pour nous, je pense que le revenu de base peut être intéressant comme un revenu de transition, c'est-à-dire qu'il y a une évolution de l'emploi. On peut en parler, on parle beaucoup de la disparition de l'emploi, et voilà. On peut parler aussi de la nécessité d'adapter l'emploi à de nouvelles formes d'emploi. Donc le temps de se former, il faut bien pouvoir vivre pour se former. Donc le revenu de base peut être aussi un outil de transition. C'est, on voit aussi l'explosion du nombre d'indépendants, on voit aussi beaucoup d'inégalités sociales, 9 millions de pauvres. Donc effectivement, ça peut être un outil très important dans cette phase de transition.
Paul Jorion, ces arguments utilisés par Benoît Carrère, la raréfaction du travail, sa mutation, est-ce que c'est les arguments que vous entendez ?
Ah oui, tout à fait, mais c'est pour ça que je considère qu'il y a une autre manière d'aborder les choses. Parce que ce que j'ai entendu dire, c'est qu'on compte sur un changement de comportement. Alors que si on regarde ce qui a échoué au 19e siècle pour toutes les tentatives qui ont été des tentatives extrêmement généreuses justement de changer l'économie d'une manière ou d'une autre, on pariait sur des changements de comportement et là, malheureusement avec l'être humain, on ne peut pas décider à l'avance à quelle vitesse, sur quelle chronologie les comportements vont changer. Le revenu universel de base, il faut bien le dire, c'est une mesure extrêmement coûteuse par rapport à d'autres possibilités. Une étude a été faite en Angleterre par University College. Ils considèrent que le revenu universel de base, ça représente 13% du PIB, du produit intérieur brut, c'est-à-dire bon, ce qu'on appelle la croissance de manière générale, sur une année. Ce sont des sommes qu'on ne peut pas dégager. Si on ne peut pas dégager des sommes de cet ordre-là, il faut prendre d'autres types de mesures.
Alors justement, Paul Jorion, j'aimerais faire réagir Benoît Carrère à ce problème du coût. Pour vous, comment on finance un revenu universel?
La question du coût se pose aussi avec les recettes. C'est-à-dire que concrètement, si vous donnez une base à tout le monde, il y a aussi potentiellement des recettes. Ça, on ne l'a jamais vraiment analysé. Il n'y a pas vraiment d'études qui démontrent que, effectivement, combien ça va pouvoir apporter en termes de rentrée sociale, fiscale, si on donne une base à tout le monde. Il y a aussi les changements de comportement, les externalités positives, comme on dit. Et puis, il n'y a pas de financement unique. Sur le financement, tout est possible. Je pense aussi que ce qui est intéressant, en tout cas pour la France, c'est intéressant parce que le revenu de base suppose aussi un impôt sur le revenu, un revenu universel, impôt universel quelque part. Mmh. Et donc là aussi c'est intéressant en termes d'inégalités aussi qui sont au travers de l'impôt. Ça peut être très intéressant. Et puis je pense aussi que le revenu de base peut être simplement un élément d'un futur commun dont peut faire partie la gratuité des services publics, dont peut faire partie les monnaies locales, peuvent faire partie un certain nombre de choses. Il y a d'autres formes de financement et je pense juste en dernier point, l'hélicoptère monnaie avait été proposé par Mario Draghi à un moment donné, je crois en 2015, il avait juste fait un petit aparté là-dessus en disant qu'on pouvait, la Banque Centrale pouvait verser aussi de son côté un revenu de base à des gens, directement aux citoyens. Je pense aussi que ça peut être des pistes de financement qui ne sont pas du tout exploitées aujourd'hui.
Voilà. Alors un autre argument utilisé par les défenseurs du revenu de base, c'est le non-recours de beaucoup de personnes à des allocations auxquelles elles ont pourtant droit. Selon la Caisse Nationale d'Allocations Familiales, le taux de non-recours en France serait de 30%. Paul Jorion, verser ces allocations directement sans démarche parfois fastidieuse, ça ne vous semble pas judicieux ?
Si, ce serait une amélioration par rapport à ce qu'il y a maintenant. Mais il y a une autre méthode qui est une méthode bien meilleure et beaucoup moins coûteuse dans l'immédiat, c'est d'étendre la gratuité des services. Nous sommes habitués au fait que la médecine, que l'accès à la santé pouvait être gratuit. Nous étions habitués à l'idée que l'éducation pouvait être gratuite. On fait marche arrière maintenant sur ça. Il faudrait d'abord revenir à l'extension de cette gratuité et ensuite aller la déposer dans d'autres endroits comme sur l'accès aux vêtements de manière élémentaire, à l'alimentation, l'accès à la connectivité qu'on nous impose maintenant de toute manière, l'accès au téléphone et des choses de cet ordre-là. L'avantage d'étendre la gratuité par rapport à distribuer des chèques, c'est qu'on démonétise l'approche. On la met à l'abri de toute prédation possible.
Mais alors concrètement, comment on fait ça, Paul Jorion? Parce que vous parliez du coût du revenu de base. Oui. La gratuité, ça coûte de l'argent aussi, j'imagine.
Oui, mais il y a une étude qui a été faite en Angleterre. C'est un rapport d'octobre de l'année dernière. Ils ont fait un coût comparatif des deux à l'échelle de la Grande-Bretagne. Le coût du revenu universel, 13% de produit intérieur brut, une extension de la gratuité comme je viens de le dire, à l'alimentation, au logement, en plus de la santé, de l'éducation, à la connectivité, au téléphone, etc., au transport, de proximité, 2%, c'est-à-dire des sommes qui sont abordables, des sommes qu'on peut faire 6 fois moins que le revenu universel. Et comme ça a été dit par Carrère, c'est très bien. Si on distribue la même somme à tout le monde, on va devoir, à ceux qui sont les plus nantis, on va devoir la reprendre par l'impôt, c'est-à-dire une machinerie supplémentaire.
Benoît Carrère, vous vouliez réagir?
Oui, juste pour dire qu'effectivement, il y a l'étude, la question des recettes est importante, et je reviens là-dessus, l'expérimentation est aussi importante, parce que il faut bien savoir que comment on peut imaginer aujourd'hui, identifier très clairement le coût du revenu de base si on ne met pas en face les recettes qu'il peut générer, et ça c'est très important. Et pour moi aujourd'hui, la gratuité des services publics peut être, comme je le disais, un élément d'un commun, comme le revenu de base, au même titre du revenu de base, il peut y avoir un revenu de base plus...
Oui, vous n'opposez pas forcément les deux.
C'est
les
pas
deux
une
mesures.
Opposition, c'est complémentaire en fait. Il peut y avoir aussi les monnaies locales, il peut y avoir plein de choses. Et je pense que ça fait partie d'un nouveau commun qu'on doit construire aujourd'hui dans la société qui arrive.
Alors aujourd'hui, Benoît Carrère, comment se positionne la classe politique par rapport à cette idée de revenu universel?
Alors la classe politique aujourd'hui, il faut quand même faire un peu d'histoire rapide, mais c'est d'abord été une idée révolutionnaire de la Révolution française, hein, au sens libéral du terme. Hein, c'était d'abord vécu comme un revenu de citoyenneté, c'est-à-dire que pour pouvoir s'exprimer librement, un citoyen doit être économiquement libre. Donc c'était Thomas Paine, un député du Pas-de-Calais, qui l'avait proposé. Et progressivement, il y a l'évolution libérale a fait que ceux qui étaient favorables au capitalisme, au marché libre, ont plutôt proposé avec Milton Friedman l'idée que donner un revenu de base aux gens, plutôt à droite, hein, on dit, c'était plutôt solvabiliser la demande, ou dans une logique de la pauvreté à un coût, donc il faut lutter contre la pauvreté. Donc, en gros, certains étaient jusqu'à la suppression des régimes assurantiels, sociaux, les ACQ, etc. D'autres sont pour les conserver, mais sont toujours dans cette logique de lutte contre la pauvreté. Et à l'autre côté, vous avez plutôt les libertaires, je dirais, qui sont plutôt dans une idée de revenu de liberté, d'émancipation par rapport à la famille, par rapport à l'entreprise, par rapport au couple. Puisqu'on a un revenu, on peut faire un petit peu ce qu'on veut là-dessus. Et mettre fin à toute forme de domination de l'homme, notamment l'omission par le capital, que selon les libertaires, nie en tout cas le capitalisme. Donc l'idée effectivement c'est deux visions du monde qui s'affrontent en fait. Ces deux visions, c'est pas simplement des oppositions, c'est deux visions du monde. Donc
et aujourd'hui encore, il y a des personnalités de gauche comme de droite qui défendent cette idée
pour des raisons parfois différentes. Un revenu d'émancipation, c'est pas vraiment la même chose qu'un revenu pour lutter contre la pauvreté, simplement continuons le même système ensemble et colmatons les brèches et on donne un revenu, ou alors étendons une nouvelle société en donnant un revenu d'émancipation, et c'est ça les grandes différences. Finalement, il y a deux utopistes. L'un renvoie l'utopie en disant voilà, vous êtes utopiste parce que c'est irréalisable ce que vous allez faire. Et de l'autre côté, les libertaires disent oui, mais si vous continuez dans le système tel qu'il est aujourd'hui capitaliste, il est en train de s'effondrer. Donc les utopistes, c'est vous. Vous voyez, c'est dans deux formes d'utopistes. On se renvoie l'utopie quelque part. Chacun se renvoie l'utopie. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, ça fait débat et que ça transcende la classe politique. Et je tiens à rappeler juste que la classe politique, lors du rapport du Sénat, a été consensuel, c'est-à-dire que la droite et la gauche ont été d'accord de manière unanime pour expérimenter leur une base, parce que ça peut être une source intéressante d'évolution du système social.
Alors justement, est-ce que je voudrais parler des mises en application du revenu universel, revenu de base, est-ce que il y en a eu en France ou dans le monde? Je sais que donc ces 13 départements français souhaitent tester l'année prochaine. Comment ça va se passer? Est-ce que vous savez à peu près comment ça va se passer?
Alors, il y a déjà eu le rapport qui a été fait par le Laboratoire d'économie de Paris et la Fondation Jean Jaurès, qui a été commandé par les départements. Alors, effectivement, on est sous l'angle effectivement des compétences des départements, qui sont des compétences en matière sociale. Donc, pour le coup, ça va être un revenu de base qui va s'élargir, je dirais, aux jeunes potentiellement. Enfin, il y a des évolutions de ce type. Mais ce qui est plus intéressant à voir, c'est que dans les expérimentations qui sont passées dans le monde, c'est qu'on peut pas forcément comparer les pays du Sud et les pays du Nord. Et c'est vraiment différent. Les systèmes sont différents. Et puis surtout, tous les revenus de base, il n'y a pas eu de revenu de base assez pur, au sens pur du terme. C'est-à-dire que la Finlande l'a expérimenté sur les chômeurs de longue durée, sur une petit panel. Ensuite, on peut aller sur des revenus de la rente, avec l'Alaska sur le pétrole ou Macao sur les jeux, etc., etc. Mais en revanche, là où il y a eu vraiment des expérimentations, ce sont à Dauphin, par exemple, au Canada, ou il y a eu aussi en Namibie ou en Inde. Et là, par contre, on se rend compte quand même qu'il y a des effets très positifs en matière de formation, en matière de santé. Et puis, dans les pays comme le Canada, il y a eu une baisse du temps de travail, mais il n'y a pas eu la fin du travail, comme ce qui est annoncé, la mort du travail, là, pour le coup. Il y a eu il y a eu des évolutions aussi au niveau des mœurs, etc., etc. Donc, c'est des choses intéressantes. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques divorces qui ont augmenté, voilà. Mais ça montre aussi l'indépendance et la liberté que donne le revenu de base.
Paul Jorion, ces expériences à l'étranger, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous y prêtez attention?
C'est intéressant, mais ce sont des échantillonnages sur des voilà extrêmement faibles. Je suis d'accord, bien sûr, sur la philosophie, sur la finalité de ce que dit Benoît Carrière, mais on n'est pas d'accord sur les modalités, parce que nous vivons dans un système, et c'est un système qui est extrêmement prédateur, le système capitaliste tout autour de nous. Ce qu'il faut faire, et vers quoi il faut viser, c'est une séparation, effectivement, des revenus du travail effectué, parce qu'on ne sait pas dans quelle mesure le travail va disparaître. Mais ce qu'il faut protéger surtout, et là, véritablement, c'est mon expérience d'avoir travaillé 18 ans dans des banques, éviter de donner des chèques aux gens qui vont être la victime de prédation. Quand je dis aux gens que dès qu'on distribue un chèque à une partie de la population, il y a des comités qui se créent dans les banques pour voir comment on va pouvoir prendre une partie de cet argent, ce n'est pas des ragots, ce n'est pas moi qui dis ça de l'extérieur, c'est d'avoir vécu ça de l'intérieur. Je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut protéger, il faut mettre la protection des individus à l'abri de toute prédation du système extérieur. C'est comme ça que les coopératives sont mortes au 19e siècle. Tout ce qui marchait a été racheté immédiatement par le système autour. Il faut réfléchir aux expériences anciennes. J'y faisais allusion tout à l'heure. Penser qu'on va pouvoir changer les comportements, changer les attitudes très rapidement, ça, il ne faut jamais parier là-dessus. Il faut savoir comment fonctionne le système. Aux États-Unis, en 2009, on veut relancer l'immobilier, on donne 4000 euros à tous les ménages qui n'ont jamais accédé à la propriété. Le lendemain, le prix des maisons dans l'ensemble des États-Unis a augmenté de 4000 euros. Il faut savoir que le système autour est extrêmement prédateur.
Paul Jorion, le 13 septembre dernier, le président Emmanuel Macron présentait un plan pauvreté, plan qui prévoit en 2020 la mise en place d'un revenu universel d'activité. Alors ce serait un revenu complémentaire soumis à des conditions d'activité. Est-ce que cet entre-deux, si je puis dire, ça vous semble plus convaincant ?
Il faut sortir entièrement d'une logique de l'assistanat, c'est-à-dire qu'on s'adresse aux pauvres et on essaye de les aider dans un système où nous le savons maintenant. C'est l'impôt qui va financer tout cela, et nous savons que l'impôt est mal distribué et mal collecté dans nos pays, que ce sont les gens qui sont à peine un peu plus riches que les autres qui paient l'impôt et qui vont subventionner ce type de type d'aide au reste de la population, alors que les plus grosses fortunes en termes de patrimoine, en termes de revenus, ont tous les moyens d'échapper à ce système. Et on leur fait encore des cadeaux sous prétexte de qui créent de l'emploi, alors que nous savons bien que nous sommes dans un contexte où les entreprises qui rapportent énormément d'argent, qui vont collecter énormément de profits maintenant, ce ne sont plus nécessairement des entreprises qui créent un grand nombre d'emplois.
On ne crée bien. Benoît Carrère souhaite vous répondre justement sur ce point.
Je veux dire qu'il y a quand même une précision, c'est pas du tout même un revenu universel, c'est un revenu plutôt universel d'aliénation plutôt que d'activité, puisque effectivement dans les conditions, en tout cas, si vous avez des minima sociaux aujourd'hui, vous n'avez pas de conditions, vous touchez vos minima sociaux, le RSA, etc. Là, dans le projet, en tout cas, tel qu'il est aujourd'hui, présenté, peut-être que ça changera, mais dans le projet qui est présenté, il y a plein de conditions pour pouvoir l'obtenir. Donc, en gros, si vous ne rentrez pas dans les conditions, qu'est-ce que vous faites? Vous mourrez de faim.
Mais Paul Jorion a l'air de dire, et je pense que vous êtes assez d'accord, Benoît Carrère, que pour mettre en place le revenu universel, lui n'y croit pas, mais vous y croyez, et pour cette mise en place, il faudrait changer complètement de système de société, en fait.
Mais on est bien d'accord, mais nous on considère que la première marche, c'est le revenu de base, que c'est une première étape, et qu'elle n'est pas suffisante, mais que c'est une première étape.
Et là, dans l'avenir proche, est-ce que vous avez des possibilités de mettre en place donc ce principe ?
Eh ben, on attend les expérimentations des départements. On attend aussi le retour des expérimentations qui se font un petit peu partout dans le monde. Il y en a au Kenya, il y en a ailleurs. Et puis, il y a des évolutions aussi. On parle de revenus de transition écologique aujourd'hui. Il y a plein d'autres évolutions qui existent.
Merci Benoît Carrère et merci à Paul Jorion. Je rappelle donc Benoît Carrère que vous êtes membre du mouvement français pour un revenu de base. Paul Jorion, anthropologue et sociologue, professeur associé à l'Université catholique de Lille. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Et enfin, merci à vous de nous avoir écoutés. Rendez-vous lundi, même endroit, même heure, pour un nouveau débat sur RFI, bien sûr. Bonne soirée.